Choisir ce qui est le mieux n'est pas facile. Que ce soit pour soi-même ou pour nos proches. Par exemple, quand on a des enfants, on se pose 1000 questions depuis la première heure où le bébé naît pour savoir ce qui est le mieux à faire. Et puis ensuite, évidemment, pour les éduquer le mieux possible. Je ne vais pas citer toutes les fois où on se demande, mais il y a un lieu qui m'est cher, c'est le lieu des relations. Quand on a des relations qui posent problème, on se demande, mais comment est-ce que je peux améliorer les choses? Et puis pendant le confinement, eh bien, beaucoup ont eu le temps de se poser des questions qui ne se posaient jamais avant. Et du coup, il y a parfois malheureusement, parfois heureusement, des décisions qui ont été prises par rapport à cette réalité qu'on a osé regarder en face. C'est dans notre fort intérieur que cette réflexion a lieu. Et même si nous pouvons prendre de multiples conseils autour de nous, c'est toujours en conscience, dans le secret de notre conscience, que nos choix se décident. C'est à l'intérieur de nous que l'on peut sentir si ces choix sont justes ou pas pour notre vie. Pourtant, il arrive que cela ne suffise pas d'être seul avec soi-même pour décider. Et on sent bien qu'il y a un mûrissement intérieur. Et ce mûrissement intérieur a parfois besoin d'autre chose pour grandir. Peut-être de laisser la place à un autre. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste prend le temps du recul, il est prophète. Il arrête le temps pour dire « Attention, quelque chose va advenir. » Alors dans les images qu'utilisent les prophètes, les montagnes et les collines peuvent être des métaphores de l'orgueil humain. Quand on regarde au chapitre 2 du prophète Ésaïe, le Seigneur se désole que son peuple se détourne de lui. Il utilise ce que finalement tous les parents, et je vous soupçonne, quelqu'un arrive à ne pas éduquer ses enfants sans ça, moi je prends des cours. Hein. Il utilise ce que tous les parents font envers les enfants qui ne veulent pas les écouter, et bien il les menace. Écoutons les quelques versets du chapitre 2 du prophète Ésaïe. Le Seigneur de l'univers se réserve un jour pour prononcer son jugement contre tout ce qui prétend être grand ou supérieur afin de le rabaisser, contre toutes les hautes montagnes et les collines dominantes, contre toutes les tours, hautaines et les murailles inaccessibles. Ce jour-là, le Seigneur seul sera reconnu grand. Tous les faux dieux disparaîtront. Alors, Jean, appelé le baptiseur, est à la charnière de cet Ancien Testament qui oscille entre menaces et promesses. Et en citant ce passage le prophète Ésaïe, il annonce un temps nouveau, en citant le chapitre 40, je veux dire, il annonce un temps nouveau, même si ce n'est pas vraiment ce que cet homme, Jésus, fera. Jean, lui, va le baptiser. Et du coup, Jean proclame un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, et dans la traduction que nous avons entendue, il est question de changer de comportement, mais en grec, il est plutôt question de changer de mentalité. C'est la métanoïa. Changer de mentalité. Et changer de mentalité pour justement laisser passer celui qui se révèle comme être le Messie, le Seigneur qui nous sauve. Nous avons à faire de la place en nous, peut-être en laissant de côté notre orgueil pour s'ouvrir à quelqu'un d'autre. En fait, l'image des montagnes et des collines qui doivent être abaissés, c'est peut-être avec cette métaphore de notre orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qu'on a tous. Il nous fait croire que nous pouvons nous sortir de toutes les situations tout seuls, sans aide, sans avoir besoin des autres. L'orgueil nous empêche souvent d'être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Il nous incite à cacher des choses, parfois avec de très bons arguments. L'orgueil nous fait trouver de très bonnes justifications pour nous faire croire qu'on aurait pu faire autrement. L'orgueil s'accroche à l'illusion de la toute-puissance. Alors l'orgueil, on en a tous, et il ne faut pas le confondre avec la confiance en soi. Parce qu'il est nécessaire de pouvoir se tenir devant les autres, et ça, je l'appelle en tout cas la confiance en soi. On a besoin de cette confiance pour affirmer nos choix, quand parfois nos choix ne vont pas dans le même sens que, par exemple, les parents ou bien notre entourage. Pouvoir faire face aussi à ceux qui veulent nous humilier, ça peut arriver au travail ou dans d'autres circonstances. Pouvoir suivre le chemin qu'on a discerné en nous-mêmes comme quelque chose de juste. Souvent, l'orgueil empêche un chemin de vérité. Il nous fait parfois désirer d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais si l'on ose être soi-même en assumant ses choix, on assume aussi ses fragilités, nos fragilités. En assumant ça, ça peut ouvrir un chemin d'amour, de cet amour agapé qui n'attend rien, qui aime gratuitement. Dire à quelqu'un ou à Dieu, stop, je ne peux pas aller plus loin, j'ai besoin d'aide, eh bien, c'est faire en sorte que l'orgueil passe derrière nous. Et c'est oser se relier à ce petit enfant qui vient à nous, à Noël. C'est oser se relier à celui qui s'est habillé de la fragilité humaine. Et je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse, puisqu'on a eu notre journée hier du Conseil presbytéral et on a parlé de la fragilité, de la précarité. C'est aussi un mot qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, c'est pas grave. Parce que Jésus s'est fait miroir de nos fragilités, il les connaît. Et du coup, eh bien, il attend qu'on fasse de la place pour lui, pour qu'on lui demande de l'aide à lui. Et Jean-Baptiste nous dit, vous avez tout à y gagner à faire de la place en vous pour accueillir ce Messie tant attendu, parce qu'il va y avoir un changement radical de la part de Dieu. En effet, entre la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, eh bien la menace est terminée. Il y a pas mal de personnes qui me disent, non mais moi l'Ancien Testament, je ne peux pas le lire, il y a trop de violence, on parle d'un Dieu qui juge, qui condamne, etc. C'est vrai qu'il y a cette image de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, c'est l'image d'un Dieu qui ne sait pas faire autrement avec ses enfants que de dire, mais revenez à moi. Mais Jésus va apporter une rupture, une pédagogie nouvelle qui ne consiste plus en une menace, mais en un amour qui se révèle dans la fragilité d'une naissance. Et du coup, la façon d'adorer Dieu va se transformer radicalement. Il n'est plus question de réagir à une menace, mais de s'ouvrir à ce Dieu d'amour qui nous accueille et nous encourage à vivre la vérité de ce que nous sommes, même si cette vérité parfois n'est pas facile à regarder en face. La pédagogie de Dieu, c'est de ne pas vouloir arracher le mal, mais d'étouffer le mal par le bien. Souvenez-vous de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le maître défend au serviteur d'aller arracher l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe, la zizania en grec. Par contre, il encourage à prendre soin du bon grain qui pousse. La zizanie, on peut mettre en face la paix, être des gens de paix. La pédagogie de Dieu, c'est de nous donner envie de nous approcher de Jésus qui va dire de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Alors quand j'ai interrogé les catéchumènes il y a 15 jours sur qu'est-ce qui fait que c'est différent à Noël de se retrouver en famille, parce que souvent ça revient dans les réjouissances, on va se retrouver en famille, on va faire la fête, et bien il y avait aussi les lumières. Les lumières, les décorations, et c'est vrai qu'on est heureux du mois de décembre qui arrive, parce qu'il y a plein de lumières. Il y a plein de lumières sur les fenêtres, il y a des lumières dans la rue, il y a des petites étoiles. Toi aussi, tu as vu des lumières, et puis là, il y a deux bougies en plus. C'est super joli. Ouais, vous avez raison, les enfants. Alors, nous sommes attirés par la lumière, au propre comme au figuré. Parce qu'il y a des ténèbres autour de nous. Notre vie, eh bien, est une succession de bonnes et de mauvaises expériences, de bonnes choses et de choses plus difficiles à vivre. Et bien sûr, quand nous avons à faire face à nos difficultés, souvent on ne voit que ça. Et Luc, d'ailleurs, ne nous cache pas les difficultés. Il ne nous dit pas « Jésus arrive dans un monde parfaitement plein d'amour et tout va aller bien ». Et Jacques Frédéric, à qui j'ai demandé au dernier moment de lire ces noms compliqués, « Croyez pas que l'évangile de Luc, il met ça juste pour nous embêter ». Non, non. Le premier verset est une longue énumération de tous ceux qui tenaient, qui gouvernaient la Palestine. Il faut savoir que l'action de Dieu, elle n'est pas comme ça, une espèce de force immuable au-dessus de la tête, comme j'entends aussi très très souvent. L'action de Dieu s'inscrit dans un temps donné, dans une géographie donnée, avec des personnes précises. L'Empire romain, représenté par Tibère, César, est le cadre de l'intervention divine, décisive. Alors les autres personnages sont à la solde des Romains, l'occupant de Palestine. Hérode, vous avez peut-être des souvenirs, ne va pas être très très gentil avec Jésus, il va faire en sorte d'humilier Jésus. Pour Jean-Baptiste, il va faire mourir Jean-Baptiste assez vite. Ponce Pilate est un préfet romain qui va condamner Jésus à la crucifixion. Et puis le pouvoir religieux qui a réclamé cette crucifixion est représenté par Anne et Caïphe, les grands prêtres. Les chefs religieux qui ont tout pouvoir. Le drame qui attend Jésus est annoncé là, dès le troisième chapitre de l'Évangile. Est-ce pour autant que Jésus va baisser les bras? Est-ce pour autant qu'il va renoncer à faire briller cette lumière dont il dit dans l'Évangile de Jean qu'elle ne va pas être reçue? Est-ce pour autant qu'il renonce à faire du bien autour de lui, qu'il renonce à apporter cette paix si précieuse? Non, l'espérance qu'il apporte fait reculer les découragements et les « à quoi bon ?». Il voit bien plus loin que les réalités du monde parce qu'il se laisse accompagner par cet amour de Dieu, par cet esprit de Dieu. Et Jésus ouvre des brèches de lumière. Il ne va pas amener une lumière qui va changer radicalement les choses. Il va ouvrir des brèches. Et vous avez peut-être eu cette expérience d'être dans une salle complètement sombre. Nos yeux sont extraordinaires parce qu'on cherche la moindre petite brindille de lumière. C'est rare d'avoir une pièce où il fait complètement noir. Et il suffit qu'il y ait des petits trous dans le rideau qui occulte, par exemple, pour déjà voir clair, voir où on peut mettre les pieds. Alors oui, malgré toutes les difficultés vécues de génération en génération, malgré les drames qui ont succédé dans l'histoire du monde, les brèches de lumière de Jésus sont arrivées jusqu'à nous et vont continuer après nous. Nous nous en faisons les passeurs. Parce que c'est bien parce qu'il y a de l'obscurité dans le monde que nous avons besoin de sa lumière. C'est bien parce qu'il est envoyé par Dieu qu'il a traversé le temps au-delà des temps et des espaces. Alors oui, faisons-nous des passeurs de lumière, laissons-nous attirer par cette lumière, essayons d'introduire ces brèches de lumière dans nos vies, dans nos décisions, laissons un peu d'aération dans nos consciences, dans nos esprits, pour laisser de la place à son amour qui nous enveloppe dans nos fragilités. Et peut-être même, pour être provoquant, prenons nos difficultés comme des occasions de nous laisser convertir par Dieu, de nous laisser attirer par Dieu, pour nous laisser aimer par Dieu. Et puis créons des brèches de lumière, en agissant et en priant. Parce que quand nous avons le sentiment que nous ne pouvons plus rien faire, ne désespérons pas. Jésus n'a pas résolu toutes les situations compliquées de son époque. Par contre, il a reconnu ses limites et il s'est confié à Dieu dans la prière. Et ça, c'est à notre portée aussi. Alors accueillons donc ceux et celles qui sont pris par les difficultés de notre société pour les attirer vers la lumière qui brille au milieu des ténèbres. Ayons confiance en Dieu. Et préparons nos cœurs à allumer la lumière qui vient dès aujourd'hui en Jésus-Christ.